L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans quelques minutes sur BFM Business, dans cet atelier numérique, on retrouvera notre web stratégie. On va en parler de réalité augmentée qui arrive dans les casinos. Et puis notre dossier de l'atelier US. On va revenir sur la conférence F8, la conférence de Facebook qui s'est déroulée il y a quelques temps de cela. Mais dans l'immédiat, notre passion selon Saint-Net. Jusqu'où Internet va changer nos vies? Lila Megraoua, vous avez rencontré le directeur de la publication de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix.
Alexandre Lacroix, vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Vous avez récemment publié l'ouvrage « Ce qui nous relie, jusqu'où Internet changera nos vies » qui raconte trois rencontres. À la fois la première avec l'apôtre de Wikileaks, Julian Assange, celle avec Philippe, un truceur. Vous nous expliquerez à quoi ça correspond ce mouvement des truceurs installé au Paraguay, Philippe. Et enfin avec Peter Thiel, le fameux milliardaire qui a à la fois cofondé PayPal et investi entre autres dans Facebook. Un peu pourquoi ce livre, vous dites que ces trois rencontres vous ont fait réaliser que la révolution numérique engageait un changement dans nos repères, nos valeurs.
Alors, mon métier n'est pas d'être informaticien ou d'être un spécialiste de technologie. Il est lié à mes activités à Philosophie Magazine. Et donc, il consiste à essayer de porter un regard philosophique sur l'actualité, sur le monde contemporain. Et quand on regarde le monde contemporain, on peut avoir deux sentiments assez différents. On peut avoir le sentiment général que la France, en particulier, et l'Europe sont en phase de déclin. Les indicateurs économiques semblent confirmer cette idée-là. Et puis, on voit que nos personnels politiques ont peu de vision d'avenir. Et cette vision est assez juste. Il y a un essoufflement de civilisation. Mais on peut aussi avoir une vision plus enchantée, plus positive de notre monde contemporain en se disant que nous avons eu une chance extraordinaire. Moi, je suis né en 1975. Et cette chance, pour les gens de ma génération, mais de beaucoup de vos auditeurs aussi, c'est d'avoir pu suivre une des révolutions les plus rapides, les plus importantes qu'a connue l'histoire de l'humanité, la troisième révolution du signe. Après l'invention de l'écriture, après l'invention de l'imprimerie, nous sommes face, avec l'arrivée du web en 1989, à une révolution qui certes est technologique, mais qui n'est pas simplement technologique, ou plutôt il faut la relier à de grandes technologies. L'écriture, à la base, c'est une technologie. Au départ, c'est une technique qui consiste à inscrire des signes dans de l'argile fraîche, avec des roseaux coupés. C'est une technique. Donc, de la même manière, aujourd'hui, nous avons des techniques qui modifient fondamentalement la manière dont les êtres humains laissent des traces, enregistrent des traces de leurs activités et les échangent entre eux. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis 1989, on voit que toutes les sphères de l'activité humaine ont été touchées. À la fois la vie professionnelle, tout le monde a dû réapprendre son métier à l'aune des nouveaux outils numériques, mais également la vie privée, c'est-à-dire que la manière dont on aime, dont on se rencontre, dont on entretient une vie familiale, dont on entretient des rapports avec des amis, a été fondamentalement modifiée par l'arrivée de ces outils, par l'arrivée des réseaux sociaux.
Alors d'où le titre « Ce qui nous relie » ?
Alors le titre de mon ouvrage « Ce qui nous relie » effectivement a vocation à pointer du doigt l'un des aspects les plus spectaculaires de cette révolution, c'est que nous sommes projetés dans une sorte de télépathie gigantesque assistée par les machines. Nous avons bien sûr des flux de conscience, des pensées, mais à toute heure de la journée, où que nous soyons, même si nous nous promenons loin de la ville, en forêt, il suffit que nous soyons dans une zone de connexion, et les pensées des autres, les pensées de nos amis, de nos collègues, de notre entourage peuvent nous atteindre. Nous sommes en permanence atteints par des messages de toute provenance. Et ça, c'est assez nouveau. Et je dirais que c'est assez vertigineux aussi. Ça signifie que vous pouvez avoir l'impression que vous êtes tellement relié, que vous êtes tellement connecté, que les frontières de votre identité deviennent poreuses, deviennent floues. Et donc, c'est un défi pour nous de vivre cela contemporain. Puis c'est aussi un défi pour la philosophie. C'est-à-dire, il faut repenser ce que c'est que d'avoir une identité, que d'être un sujet à l'air connecté.
Alors, une autre rencontre, c'est notamment celle avec Peter Thiel. enfin libertarien et transhumaniste. Vous vous rendez en Californie pour à la fois le rencontrer, vous rencontrez pas mal de chercheurs et vous dînez notamment avec quelques membres de la Singularity University qui donne lieu à un discours assez, un dialogue assez cocasse. Vous demandez notamment à vos hôtes s'ils accepteraient d'avoir greffé à leur crâne un port USB. De concert, ils répondent tous oui. Et vous réalisez que c'est bien l'information biologique qui est l'enjeu. Vous dites que demain, nos corps seront du texte lisible et modifiable par d'autres.
Alors, tant qu'on est dans le domaine des lanceurs d'alerte en compagnie de Julian Assange ou dans le domaine, dans le monde des trousers, des conspirationnistes en compagnie de Philippe, on est dans des usages de l'information qui sont des usages, on va dire, traditionnels. L'information, c'est du langage, c'est du symbolique, ce sont des récits, des chiffres que les hommes échangent entre eux. C'est classique. Ce que la révolution technologique en cours doit nous amener maintenant à penser, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est le fait que l'information biologique et génétique va être progressivement mise en ligne. C'est déjà un peu le cas en réalité. Il existe aux États-Unis une société qui propose maintenant pour $200 de séquencer le génome humain, et beaucoup de patients y ont recours aux États-Unis. Tiens, c'est curieux, cette société a été fondée par une femme qui s'appelle Anne Wojcicki, qui est la première femme du fondateur de Google, Sergey Brin. C'est pas du tout un hasard, évidemment, c'est lié. C'est-à-dire que la révolution numérique en cours, qui concerne avec Google l'information, est liée à cette révolution de la génétique en cours également. En Europe, il y a une société qui fait ça aussi, la société de Laurent Alexandre, qui s'appelle DNA Vision, et qui, de la même manière, propose du séquençage de génome. Mais c'est pas la seule chose. Il existe de plus en plus des recherches qui ont lieu pour faire en sorte que les données biomédicales de chaque patient soient compilées, traitées par des applications, accessibles sur une clé USB. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, l'été dernier, a été autorisée l'impression de médicaments. Alors l'impression de médicaments, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on utilise des imprimantes 3D pour imprimer des médicaments avec des posologies qui, au milligramme près, sont exactement adaptées à vos données biomédicales. Ça, c'est l'avenir de la médecine. Vous irez chez le médecin, vous aurez vos données biomédicales et génétiques sur une clé USB, le médecin va vous prescrire une molécule active et une application va calculer la posologie qui convient exactement pour votre corps, que vous irez ensuite faire imprimer. Il y a assez peu de molécules actives décisives et on peut tout à fait imaginer que les pharmacies se transforment en Fab Lab, en atelier de fabrication. Alors, petit à petit, on voit que toute cette sphère de l'information biologique et génétique est en train d'être captée par les mêmes acteurs qui, aujourd'hui, gèrent l'information en ligne. Alors, là, les conséquences elles vont être assez incalculables. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que ces informations vont être filtrées, monnayées, utilisées, exactement comme les informations classiques. Ces informations génétiques dont j'ai parlé, elles intéressent de manière assez évidente les compagnies d'assurance, par exemple. Donc il y a des enjeux éthiques et financiers colossaux, d'ailleurs. Mais elles ouvrent la voie également à des modifications du génome ou à de la sélection, de l'eugénisme. Il y a 2 mois, l'Angleterre a autorisé l'utilisation d'une technologie qui s'appelle le CRISPR-Cas9, qui est bon, elle porte un nom barbare, mais qui permet de délier les brins de l'ADN au moment des premières divisions cellulaires de l'embryon, et délier les brins de l'ADN pour introduire des modifications dans le génome. On commence à voir apparaître une sorte de gigantesque bricolage de la génétique. Il y a d'ailleurs chaque année, chaque été, des jeunes chercheurs qui font ce qu'ils appellent de la garage biology, c'est-à-dire de la biologie de garage, et ils s'amusent à s'envoyer des lignes de code, et en fait ces lignes de code, c'est des lignes de code génétiques, et ils fabriquent avec des petites bactéries, des petits chromosomes de bactéries, ou alors avec des briques de vivants, ils essayent de fabriquer des bactéries qui ont telle ou telle propriété, par exemple qui sont lumineuses la nuit, et donc ça y est, on a les mains dans le cambouis, on a ouvert le capot de la vie, on commence à trifouiller l'information génétique. Et ce qu'il faut penser comme avenir, c'est un avenir où la phrase, on dit toujours l'homme est un être de langage. Alors quand on dit l'homme est un être de langage, ça veut dire que nous, par opposition aux animaux, on a la parole, on peut parler. Mais il faut le voir maintenant de manière beaucoup plus large. L'homme est un être de langage, ça va vouloir dire que nous allons modifier en fonction des croyances et des valeurs que nous avons dans notre langage courant, notre langage génétique et notre langage biologique. Et donc, la convergence ou l'interconnexion croissante entre le corps et la machine va avoir des conséquences tout à fait inédites sur notre définition de l'homme, qui, du même coup, va être à repenser. Nous sommes face à une nature humaine qui est en train, de manière accélérée, de s'artificialiser, d'être un peu moins nature, un peu plus artifice.
Vous posez la question à Kevin Kelly, fondateur de Wired, comment il imaginerait le monde dans 5000 ans. Lui prédit plus ou moins la fin de l'humanité telle qu'on la connaît, à savoir que l'humanité serait divisée en deux entre humains et post-humains. Vous, quelle est votre vision ?
Alors, la grande différence entre la Silicon Valley et l'Europe, c'est que dans la Silicon Valley, il y a des visions de l'avenir qui sont proposées. En Europe, vous interrogez un homme politique, un dirigeant économique, un journaliste, et vous lui dites, mais à quoi ressemblera le monde en 2100, en 2500 ? Il n'a pas de vision à proposer. C'est très inquiétant d'ailleurs, notamment pour la jeunesse, que de vivre dans une société où les gens n'arrivent pas à configurer l'avenir, un avenir possible. La seule chose qu'on arrive à prédire, c'est de la crise économique et des désastres écologiques. Mais on n'arrive pas à voir au-delà de ces visions apocalyptiques, en fait. Alors, dans la Silicon Valley, c'est tout à fait autre chose. Il y a encore des utopies, il y a encore des visions d'avenir. Ces visions d'avenir, elles sont inquiétantes par certains côtés. Alors, moi, j'ai interrogé notamment Kevin Kelly, qui est un grand spécialiste de la technique. Je lui ai dit, mais dans 5000 ans, on en sera où ? Et lui, ce qu'il dit, c'est que le phénomène des Amish va se reproduire. C'est-à-dire que quand certaines technologies vont apparaître au cours des siècles qui viennent, certaines sociétés humaines, certains bassins de civilisation, pour des raisons qui peuvent être religieuses, éthiques, politiques ou économiques, si elles n'ont pas les moyens, ne vont pas faire le saut. C'est refuser une modification génétique, refuser l'implantation d'une prothèse, et que donc, là où on a connu jusqu'ici une humanité une, l'effet de la technologie va être de séparer les brins de l'évolution humaine, puisque l'espèce humaine évolue, de séparer les brins de l'évolution humaine en plusieurs faisceaux, ce qui ferait qu'il y aura des humains génétiquement modifiés, des humains naturels. On n'est pas tout à fait naturel en réalité. On est déjà tout à fait pris en charge par la médecine. Il n'est pas tout à fait naturel de vivre, d'avoir notre espérance de vie en fait. Mais des humains plus ou moins comme nous, puis des humains un peu robotisés, avec des rapports qui peuvent être des rapports de domination entre ces différents types d'humains. Alors lui, c'est ce qu'il voit. La vraie question à se poser, je dirais, le scénario alternatif, ce serait un scénario où le progrès n'irait que dans une seule direction. Ça peut se soutenir aussi, parce que si on regarde le monde actuel, on a l'impression que depuis la révolution industrielle, il y a des retards dans certaines régions du monde. Mais enfin, le sillon ou le tracé technologique industriel est le même pour tous, c'est-à-dire que finalement rien ne ressemble plus à une grande ville d'Amérique du Sud qu'une grande ville d'Asie, qu'une grande ville d'Amérique du Nord, qu'une grande ville que Dubaï. Ce qu'on constate, c'est que les immeubles, les architectures, les énergies employées, tout ça semble se correspondre. Donc l'hypothèse qu'on peut opposer à Kevin Kelly, c'est qu'il y ait simplement des phénomènes de retard, mais pas des phénomènes de blocage de l'évolution technologique. Lui, ce qu'il voit, c'est que des verrous juridiques, institutionnels, politiques, religieux pourraient être assez forts pour bloquer certaines technologies. C'est possible. Dans une autre hypothèse, il y aurait une sorte de voie principale que dessineraient à l'avance les pays les plus avancés, disons-le clairement, la Californie aujourd'hui. Ce serait la voie technologique, mais une voie technologique qui finalement essaimerait petit à petit, et à mesure, vous savez, on parle toujours dans le domaine des technologies de la loi de Moore, qui fait que le coût le prix des appareils technologiques semble être divisé par deux régulièrement. Donc si la loi de Moore continue à fonctionner, les thérapies génétiques, les thérapies cellulaires les plus coûteuses qui sont actuellement mises au point pourraient se décliner pour la masse dans des versions complètement industrialisées d'ici quelques dizaines d'années. Donc je crois qu'en fait le conflit de vision, il est là. Est-ce que on considère que la technologie est quelque chose qui avance d'un même pas dans une seule direction? Ou est-ce qu'on considère que l'humanité va se détacher en plusieurs faisceaux? C'est ce que je ne saurais prévoir. Par contre, je trouve ça intéressant de faire l'exercice, de se projeter mentalement dans des périodes de temps très amples. Et philosophiquement, ça rejoint... D'ailleurs, il y a une phrase qui a été prononcée il y a presque 150 ans par Nietzsche, qui dit, mais finalement, le chemin de fer, le journal, l'électricité, ce sont des nouveautés technologiques et il faudrait être capable de voir où on va avec ça dans 1000 ans. Alors quand il dit journal, électricité, chemin de fer, de quoi il nous parle? De l'information et du réseau. Nietzsche est génial, c'est un visionnaire, mais il voit déjà que c'est autour de ces enjeux-là que ça va se jouer.
Eh ben pour continuer à s'interroger sur ce qui nous relie, j'invite nos auditeurs à lire votre ouvrage, au même titre, Ce qui nous relie, jusqu'où Internet changera nos vies, paru aux éditions Alary. Alexandre Lacroix, merci beaucoup.
Lila, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique. Web stratégie et le dossier de l'atelier. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique. La rédaction de Zéronet.com nous rejoint dans un instant avec Éric Le Bourlou. On s'intéressera aux gros titres d'actualité de cette semaine que vous avez pu lire sur 01net. Notre dossier de l'atelier US dans une minute, mais dans l'immédiat, c'est notre web stratégie avec vous, Lila Megrawa. On va s'intéresser à l'arrivée de la réalité augmentée dans les casinos, Lila.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Oui, François, effectivement, on va s'intéresser casino par touche, comment ils s'emparent du sujet de la réalité virtuelle. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Julien Van de Rosieren. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable, vous êtes directeur du Partouche Lab. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi consiste ce lab?
Alors, le lab, c'est simplement un laboratoire de recherche sur les nouvelles technologies. Et bien sûr, avec à des fins de recherche et d'applicatifs pour notre métier, les casinos.
Quelles sont ces fameuses applications? Alors notamment, on a annoncé en introduction, on a parlé de réalité virtuelle. Qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de ce lab des casinos par touche? Qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui?
Nous, on s'est intéressé de près au phénomène de la réalité virtuelle, qui est un véritable bouleversement à notre sens dans le monde du jeu vidéo, mais aussi du divertissement. Et on est acteurs, nous, en tant que casinotiers sur le territoire français, de jeux et de divertissement. Donc c'est un nouveau médium extrêmement intéressant parce qu'il permet aujourd'hui de procurer et de donner à nos clients de nouvelles expériences de jeu. Alors pour l'instant c'est pas encore du jeu d'argent, mais de nouvelles expériences de jeu dans son ensemble.
Vous avez mis en place alors une espèce d'attraction, de manège appelé le Roller Blaster qui évoque un peu les montagnes russes.
Absolument. On s'est demandé quel genre d'expérience on pourrait faire vivre à nos clients pour déjà avoir une première approche sensationnelle et qui soit aussi multijoueur. Parce que ce qu'on avait vu jusqu'à présent dans la réalité virtuelle, c'était des expériences, on va dire, solo. Et pourquoi un roller coaster? Bah parce que c'est, on va dire, les attractions phares dans les parcs d'attractions et que ça n'avait jamais encore été réalisé en réalité virtuelle. Donc voilà, on est parti de zéro, from scratch, véritablement. On a écrit le projet, on s'est renseigné avec des fournisseurs de vérins qui pourraient nous construire aussi la coque en fibre. On a fait des réunions et on a produit en interne et on a réussi à produire un module sensationnel, un manège du futur.
Est-ce que vous pourriez décrire un peu à nos auditeurs l'expérience de ce manège?
Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'un roller coaster, un tour de manège, mais en réalité virtuelle. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est de voir à quel point le cerveau peut se faire avoir par la réalité virtuelle. Ce qui est très important pour ne pas avoir ce qu'on appelle la notion de motion sickness, c'est de rajouter des effets de mouvement qui va suivre la courbe, évidemment, du chemin du manège, et également de la 4D avec ajout de vent, de ventilation, afin que le joueur ait la sensation de vitesse et d'accélération. Donc ces trois éléments-là réunis, donc la vision, le mouvement et l'effet 4D avec le vent, font qu'on vit véritablement une expérience de manège. Et on a été extrêmement emballés des premières réactions parce qu'on a fait donc le Paris Games Week en octobre dernier, qui a eu un gros succès. On s'est retrouvé un petit peu outsider au milieu de PlayStation, d'Ubisoft, des gros mastodontes du jeu vidéo. On a eu un excellent retour. C'était un premier test pour nous.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis en place dans certains casinos ce manège-là ?
Oui, il est actuellement en tournée dans plusieurs établissements. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modules qui ont été construits, vu la forte demande et la très bonne réaction du public. Donc on a 9 modules en tout, de 2 et 4 places. Actuellement, il est à Lyon, Casino le Pharaon. Il va ouvrir ce week-end d'ailleurs. Également, il va tourner un petit peu. On va implanter dans 10 casinos. Il y aura également une tournée des plages avec le Roller Blaster.
Merci beaucoup pour ce panorama des applications possibles de la réalité virtuelle en casino. Julien Van de Rosieren, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directeur du Partouche Lab. Merci.
Merci Lila. Et après Lila Megraoua, c'est Arnaud Auger qu'on retrouve depuis l'atelier US. On va revenir avec vous Arnaud sur la conférence F8, la grande conférence de Facebook qui s'est déroulée il y a quelques jours de cela.
Oui François, je suis donc avec Catherine Spindler et Benjamin Aubertel qui travaillent donc chez Vente Privée. Catherine Spindler est donc directrice marketing et Benjamin est responsable des interfaces digitales. Et ils sont venus à San Francisco pour assister au F8, la grande conférence annuelle de Facebook. Catherine, qu'est-ce que vous avez pensé de F8 ?
Alors globalement, j'ai été extrêmement impressionnée. C'était une première pour ma part. Impressionnée à la fois par l'organisation, plus de 3000 personnes reçues pendant 2 jours, avec des présentations extrêmement qualitatives. Une keynote le premier jour qui a donné une vision à 10 ans de Facebook et qui nous a permis de beaucoup mieux appréhender donc la volonté de Zuckerberg de développer son entreprise, avec une présentation extrêmement claire et très puissante. Et puis derrière, des ateliers qui nous ont permis à nous, présents sur ce F8, de s'approprier un certain nombre d'innovations.
Et vous Benjamin, qu'est-ce qui vous a plu à F8 ?
Je pense que l'énergie qui dégage de ce genre d'événement nous permet en tant que Français de nous ressourcer vraiment, de nous remettre en question également. Et puis la partie innovation digitale amenée par Facebook pendant cette conférence nous ouvre vraiment des portes pour adresser en tout cas 2016.
Et quelles sont donc les innovations présentées par Facebook qui vous ont le plus, si vous devez m'en citer 3, Catherine?
Alors, sans aucun doute, Aquila, qui est cet avion développé donc par le groupe, qui va entre autres contribuer à pouvoir développer la connexion Internet à travers le monde. Donc ça, c'est un des gros enjeux et un des gros sujets qui nous ont été présentés lors de cette conférence. La caméra 360, qui est là aussi très impressionnante dans l'expérience qu'elle fait vivre. Et puis, autre sujet qui est, on va dire, beaucoup plus proche de nous et qui va nous concerner, nous, e-commerçants, qui sont les bots Messenger.
Et vous, Benjamin, quelles innovations vous ont le plus plu ?
Bah justement, au travers des bots Messenger, toute la logique sur l'intelligence artificielle est vraiment quelque chose qu'ils ont mûri et on sent que c'est quelque chose sur lequel ils vont vraiment capitaliser sur le long terme. Il faut absolument travailler ce sujet-là avec Catherine, avec les équipes marketing et les équipes IT. Mais je dois dire que j'ai été vraiment impressionné par la partie hardware où je n'attendais vraiment pas Facebook. Aquila, c'est quelque chose que j'ambitionnais vraiment pas pour Facebook.
Et Oculus, ça vous a plu ?
Et Oculus, effectivement, les vidéos, on a eu la chance d'avoir une petite démo. C'est extrêmement impressionnant, la qualité de la vidéo et la qualité de l'expérience qu'on peut avoir avec cet objet.
En plus, Mark Zuckerberg vous a offert un casque de réalité virtuelle avec Oculus, ça a dû vous plaire. Et quelles sont concrètement les innovations que vous pensez pouvoir mettre en action justement chez Vente Privée ?
Alors il y en a certainement plusieurs et on va se faire là dans les jours qui viennent un peu un débrief de tout ce qu'on a vu et de ce qu'on va pouvoir effectivement soit travailler à plus ou moins brève échéance. Si je devais déjà en citer un premier, clairement ce sont les lives qui vont nous permettre sans doute de travailler sur un projet d'engagement de nos meilleurs clients, de les solliciter pour venir partager l'expérience qu'ils vivent au quotidien avec Vente Privée. On a des membres qui, pour une partie d'entre eux, sont extrêmement engagés et pourraient être des ambassadeurs de grande qualité. Et je pense que le live pourrait être une très bonne manière de les engager.
Merci beaucoup à vous. Et puis, Très bon séjour à San Francisco, bon retour à Paris et hâte de voir toutes vos innovations chez Vente Privée. Merci.
Arnaud, merci. La suite de cet atelier dans un instant avec la rédaction de 01net.com et puis le crash-test d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Et nous voilà de retour dans l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là. Le crash test d'Antoine Cyr dans quelques instants. Mais auparavant, comme chaque samedi, il est temps de jeter un œil sur l'actualité que vous avez pu lire cette semaine sur 01net.com, le premier site d'actualité high-tech en France. Et c'est avec Eric Le Bourlou. Bonjour Eric.
Bonjour.
Eric, on va commencer par Bitcoin et cette histoire qui n'en finit pas. Oui. On ne connaît pas encore véritablement le créateur de Bitcoin malgré les derniers soubresauts de l'actualité de cette semaine.
Oui, alors c'était assez exceptionnel cette semaine par rapport à tout ça. Alors, on sait qu'on Bitcoin a été créé par un mystérieux Satoshi Nakamoto en 2008 déjà. Et cette semaine, on a cru enfin l'avoir retrouvé en la personne de Craig Wright. Alors Craig Wright, c'est un ingénieur australien. On en avait déjà parlé ici parce que il y a à peu près il y a 6 mois, il y avait Wired et Gizmodo notamment qui avaient révélé son existence et avaient dit c'est lui, c'est bien le créateur de Bitcoin. Donc là, ce monsieur a fait son outing. Il est sorti.
Il a dit c'est moi, le créateur de Bitcoin.
Il est arrivé lundi et il a fait c'est moi. Ok, ça fait 6 mois que je patientais. Maintenant, j'en peux plus. Je vous le dis, j'en ai marre d'être dans l'anonymat. C'est moi le créateur de Bitcoin. Donc il a pour cela contacté la BBC, The Economist, des médias assez majeurs, et il leur a en gros fourni ce scoop sur un plateau en disant c'est moi. Et en plus il n'est pas allé voir que la BBC et The Economist, il est aussi allé voir des gens très influents dans le monde Bitcoin, notamment Gavin Andreessen qui est un des grands responsables de l'avenir du Bitcoin dans le monde. Il a été main developer sur Bitcoin, sur la technologie Bitcoin, et puis une autre personne qui est très influente aussi, qui ont s'empressé de bloguer sur leur blog personnel. Voilà, c'est vrai, c'est lui, c'est Craig Wright, on en a eu la preuve, il nous a fait la preuve qu'il était bien Satoshi Nakamoto. Alors on va vous expliquer exactement ici comment il a prouvé ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a en fait voulu signer un message comme s'il était en fait Satoshi Nakamoto avec une clé privée, une clé cryptographique que seul, soi-disant, d'après lui, Satoshi Nakamoto est en mesure de posséder. Donc il a montré ça à la BBC, il a montré ça aux gens responsables de Bitcoin et ils ont dit
ça certifie en quelque sorte la véracité du message.
Ça certifiait qu'il était bien et ensuite il a tout simplement posté un message sur son blog qu'il a créé avec de belles photos de lui où on voyait ça y est, je suis le créateur de Bitcoin, merci, je suis très heureux d'avoir créé tout ça, etc. Et où il montrait par le menu sa procédure pour prouver qu'il était Satoshi Nakamoto. Mais c'était sans compter en fait sur les enquêteurs du web, sur ces gens qui sont extrêmement pointus dans n'importe quel domaine, qui s'y connaissent en cryptographie.
Et qui sont allés un peu fouiner
Qui sont allés un petit peu fouiner dans tout ce qu'il avait produit comme preuve, et puis qui se sont rendus compte que c'était en fait du n'importe quoi, tout simplement. Il a fait un joli tour de passe-passe qui, moi, sans doute, m'aurait trompé, qui a trompé en fait les journalistes de la BBC, de The Economist, même s'ils avaient mis quelques doutes un peu au départ, qui a même trompé des experts en Bitcoin.
Et
en
fait, il a réussi même à tromper des experts en Bitcoin.
Exactement, tout à fait. Et finalement, il s'est avéré que sa preuve, elle était réalisable. Enfin, il y a plusieurs gens qui ont fait des tutoriels sur Internet pour expliquer que sa preuve n'en était pas du tout une, qu'ils pouvaient eux aussi prouver qu'ils étaient Satoshi Nakamoto.
N'importe qui pouvait envoyer ce type de message.
Exactement. Donc voilà, ça c'était donc mercredi. Et puis polémique qui enfle. Évidemment, ce ne serait donc pas lui puisqu'il envoie de fausses preuves.
Donc la balle est dans le camp de Craig maintenant, qui doit reprouver que c'est bien lui.
Exactement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors sur son nouveau blog qui vient d'ouvrir pour dire qu'il a été Satoshi Nakamoto, il dit « Bon, vous inquiétez pas, vous m'avez pas cru cette fois-ci, mais je vais vous proposer une preuve irréfutable que c'est bien moi. Je vais réussir à bouger un Bitcoin qui appartient forcément à Satoshi Nakamoto. Ça ne peut être que lui qui a ce Bitcoin. Je vais le transférer sur un autre compte. Comme ça, vous pourrez... Voilà, la preuve sera irréfutable. » Voilà, il propose ça, il dit « Mais ça va me prendre quelques jours. » Il propose ça. Et puis le surlendemain, il... soudainement, brutalement, devant alors une polémique qui continue à enfler sur Internet, évidemment, il ferme son blog. Il dit « Je suis désolé, je ne peux plus le faire, ma réputation est entachée, il y a des allégations qui ont été lancées contre moi, etc., etc. Donc, je ne prouverai pas que je suis Satoshi Nakamoto. Je suis désolé d'avoir entaché la réputation de ces deux experts Bitcoin dont je vous parlais. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Et voilà. Et je vous dis au revoir. Bye bye. C'est terminé. Il a disparu. Le blog a disparu. Le blog est terminé. Monsieur Craig Wright s'est effacé de nouveau d'Internet. Mais il y a fort à parier qu'effectivement, ce n'était pas Satoshi Nakamoto. Nakamoto, qui n'était pas le créateur de Bitcoin, et que voilà, maintenant on le cherche toujours, hein, c'est toujours cette énigme qui est une des plus passionnantes d'Internet, hein, parce qu'il y a c'est des gens qui le cherchent depuis des années, il y a eu plein de gens qui ont été soupçonnés d'être lui. Maintenant on se dit peut-être qu'il est tout simplement décédé, il y a plusieurs experts en Bitcoin qui sont décédés il n'y a pas si longtemps, et il se pourrait que ce soit une de ces personnes. Donc pour l'instant le mystère demeure en tout cas, bon. Ce ne serait pas Craig White.
Prochain épisode voilà. De la saga Bitcoin, bientôt sur BFM Business, mais c'est passionnant. Hein,
oui, c'est passionnant. C'est passionnant. Ouais.
On va revenir à quelque chose d'un petit peu plus concret avec YouTube qui pourrait lancer assez bientôt, ouais. Bientôt donc, en fait, un bouquet de chaînes de télévision sur ouais. Le web.
Alors oui, effectivement, YouTube serait en train de préparer, d'après Bloomberg, un nouveau service qui s'appellerait YouTube Unplugged, hein, débranché. Pourquoi Unplugged ? Parce que effectivement, ce serait pas pour débrancher évidemment l'internet, ce serait pour profiter de chaînes de télévision. Plutôt que de vous abonner, alors surtout aux États-Unis, à un fournisseur de télé par câble, hein, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, vous n'auriez plus besoin de le faire. Ce serait YouTube en fait qui directement via Internet vous fournirait toutes les chaînes de télévision dont vous avez besoin. Et ça, effectivement, alors nous, on
connaît YouTube bien. Se transformera en CanalSat, quoi, pour qu'on comprenne à peu près.
Voilà, c'est ça, en fournisseur de télévision voilà. Payante, voilà, en distributeur de chaînes de télévision. Et ça pourrait se faire. En tout cas, c'est apparemment, d'après Bloomberg, un projet qui est très 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 sérieux chez Google. Ils tiennent à le faire assez rapidement parce que aussi ils savent que d'autres acteurs arrivent, hein. On en a déjà parlé ici, mais on sait que Apple travaillerait aussi sur un service concurrent à celui-ci. Et effectivement, il pourrait arriver voilà d'ici peu, peut-être qu'il serait annoncé en fait dans les mois qui viennent. Voilà,
est-ce que ça serait autre chose que le fameux YouTube Red qui est
Oui, ce serait autre chose que YouTube Red, c'est un service qui permet de se débarrasser des pubs sur YouTube tout en payant et qui permet de télécharger des vidéos.
Et accéder à des musiques
et à certains contenus exclusifs. Là, ce serait tout simplement avoir droit via YouTube et via donc n'importe quel appareil disposant de l'application YouTube, un smartphone, une tablette, un PC, tout ce que vous voulez, votre télévision, donc ou même une Smart TV, hein. Donc se débarrasser simplement de votre abonnement par câble qui coûte assez cher aux États-Unis et avec des boîtes qui sont pas forcément très ergonomiques, etc.
Ouais. Donc voilà, il suffirait d'une connexion internet en fait.
Il suffirait d'avoir une connexion internet pour avoir la télévision. Alors ça, on n'est pas sûr que ça débarquera en France, mais en tout cas, il y a déjà en France aussi un service qui s'appelle Molotov, hein, qui devrait voir le jour bientôt, qui est déjà en bêta, mais qui propose un petit peu le même genre de service, hein, c'est un distributeur de télévision over the top, on appelle ça. Donc sans aucun intermédiaire, et vous pouvez vous abonner, voir des chaînes gratuitement et vous abonner à des chaînes. C'est un peu le même principe.
Voilà, Molotov qu'on attend depuis de longs mois, oui, hein, visiblement.
Ça met un petit peu de temps à arriver,
mais on espère que ça va bientôt débouler parce que c'est vrai que c'est un projet qui est assez séduisant. On va parler maintenant de Microsoft qui vient de passer la barre des 300 millions de licences de Windows 10.
Ouais, tout simplement 300 millions. Alors c'est 300 millions, c'est pas mal quand même puisque on rappelle que Windows 10 a été lancé l'année dernière au mois de juillet, fin juillet. Et bon, alors Windows 10 étant gratuit, effectivement, bah tous les gens qui l'ont souhaité sont passés de Windows 7 à Windows 8 à Windows 10. Et donc, tous ces gens-là, ça représente 300 millions de licences Windows 10 activées.
C'est un succès ?
C'est un succès. Alors, alors 300 millions d'un logiciel en un an, c'est pas mal. Hein. On peut pas dire que ce soit un succès. Maintenant,
On peut pas dire que ce soit un échec.
En revanche, il faut que Microsoft continue sur sa lancée parce que voilà, l'objectif c'est quand même d'avoir 1 milliard d'utilisateurs dans les années qui viennent de Windows 10. Pour l'instant, on en est encore loin. Et le truc aussi, si Microsoft communique aujourd'hui à ce sujet, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va changer, qui est très important. Au bout d'un an, c'est-à-dire au mois de juillet, Windows 10 ne sera plus gratuit comme il l'est actuellement, il sera payant. Donc tous les gens qui ont Windows 7 ou Windows 10 devront débourser à peu près $120. $120, à peu près la même somme en euros, on ne l'a pas encore en euros, pour pouvoir passer à Windows 10. Donc là, il est temps que Microsoft accélère un peu, même si ça fait un chiffre impressionnant comme ça sur le papier.
Oui, c'est-à-dire que en précipitant les gens à faire cette mise à jour gratuite, ils vont aussi augmenter ce fameux résultat de 300 millions de licences. On peut imaginer qu'ils vont gagner quelques centaines de millions d'ici la fin de l'été. abonnés en fait, puisqu'après ce sera payant, hein, c'est ça.
Tout à fait. Et effectivement, ils en ont besoin parce que on sait que ce qui compte pour eux, c'est le store, hein, c'est le magasin d'applications. Et plus il y aura de gens qui seront sous Windows 10, plus ils pourront le valoriser auprès des développeurs.
Voilà, un store qui a du mal à convaincre, hein, visiblement,
oui,
aujourd'hui encore.
Un petit peu.
Alors que c'est paradoxal, hein, 300 millions, ça commence à faire du monde.
Ça commence,
hein,
à faire du monde. Ouais. On est encore loin des chiffres d'Android ou d'iOS, hein, ceci dit.
C'est vrai.
Voilà.
Justement, puisqu'on parle d'iOS, on découvre d'ores et déjà quelques petites nouveautés concernant iOS 10. Hein, vous savez, donc c'est le système d'exploitation qui fait tourner les iPhones, les iPads, les iPods. C'est tout.
Oui,
c'est déjà pas mal. Et on a déjà quelques fuites concernant iOS 10 et notamment Apple Music, qui est le service de musique d'Apple.
Exactement. Alors ça, on devrait beaucoup entendre parler au mois de juin. Hein. Au mois de juin, ce sera la WWDC, qui est la grosse conférence développeurs d'Apple. Et traditionnellement, Apple fait découvrir durant cette conférence ces nouveaux logiciels et iOS 10, hein, qui sera une nouvelle version assez majeure, hein, puisque la dixième version d'iOS. Et dans cette version d'iOS, on aurait droit à une toute nouvelle version d'Apple Music. Alors Apple Music, ça a été lancé l'année dernière à la WWDC d'ailleurs, et malheureusement pour Apple, alors voilà, ça marche correctement, mais on l'a testé, beaucoup de gens l'ont testé. Apple n'a pas eu de très très bons retours sur cette application.
C'est pas un échec, hein, 13 millions de personnes sont abonnées au service,
c'est
qui est quand même pas mal, hein.
C'est pas mal, mais vu la surface d'Apple, vu le nombre d'appareils Apple en circulation, qu'Apple fournit 3 mois d'essai gratuits et a fourni des tarifs assez avantageux, c'est quand même pas si génial que ça. Et pourquoi c'est pas génial? C'est parce que le service est assez contraignant finalement à utiliser, l'ergonomie du service n'est pas encore parfaite, loin de là, et qu'on est par exemple obligé d'utiliser iTunes, qui est un logiciel qui vieillit quand on veut l'utiliser sur ordinateur. Donc là, Apple ferait un petit peu le ménage dans tout ça avec iOS 10, va transformer un petit peu l'interface d'Apple Music pour en faire un logiciel qui serait beaucoup plus attrayant. Et c'est ça, avec des nouvelles fonctions aussi, comme par exemple l'intégration des paroles. On sait que Spotify le fait depuis longtemps. Oui. Apple,
même Deezer le fait aussi.
Même Deezer aussi, d'ailleurs. Rattraperait ses concurrents sur les fonctions aussi. Donc voilà, on sait que donc Apple Music, qui est un élément clé pour Apple dans iOS, sera
bouger,
mise à jour dans iOS 10,
dans les semaines et les mois qui viennent. Rappelons qu'iOS 10 sera disponible sans aucun doute avec le nouvel iPhone, l'iPhone 7, qui sortira à la rentrée prochaine.
Exactement.
Merci beaucoup, Eric.
Merci.
Rédacteur en chef donc de Zeronet.com. Vous restez avec nous suite et fin de l'atelier dans un instant avec entre autres le crash test d'Antoine, comme chaque samedi. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans quelques instants et pour terminer cet atelier numérique, ce sera le crash test d'Antoine Cyr, comme chaque samedi d'ailleurs. Mais auparavant, c'est notre décryptage avec cette semaine Guillaume Degroisse de l'atelier. On va s'intéresser aux dernières tendances fintech. Guillaume.
Bonjour François, bonjour à tous. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la chance de participer au FinTech Révolution organisé par l'association France FinTech mardi dernier et dont l'atelier était partenaire, je vais essayer de vous en donner quelques grandes lignes. Alors, vous le savez, les FinTech, ce sont ces entreprises qui recouvrent les modèles de la finance, de la banque et de l'assurance. C'est le Fin. Avec l'aide du digital et des nouvelles technologies, c'est le Tech. Ce marché de la FinTech est très présent aux États-Unis. Et ces licornes, donc les startups dont la valorisation atteint le milliard de dollars, toutes basées à San Francisco, affichent depuis la fin de la crise financière des taux de croissance et des valorisations incroyables. On peut citer Sophie, qui permet aux étudiants de trouver des financements pour leurs études, Zuora, qui est désormais le module de paiement d'abonnement le plus utilisé dans le monde, bien entendu Prosper et Lending Club, qui sont les références américaines du financement participatif, et enfin Square et Stripe dans les paiements. Il serait injuste de ne parler que des États-Unis, dont on trouve des licornes à Londres, Funding Circle et TransferWise, Kufengi et Jimoobox en Chine, ou Adyen à Amsterdam. Alors la France dans tout ça? Eh bien, timidement, le marché de la fintech en France se structure depuis plus d'un an, avec entre autres la création de l'association France Fintech, qui regroupe aujourd'hui 60 startups, mais aussi des initiatives des banques dans le domaine. Une partie de la pépinière du village Crédit Agricole est dédiée à la fintech, par exemple, et notre maison mère BNP Paribas a lancé un accélérateur il y a quelques semaines dédié aux fintech et aux insurtech. Ce sont des exemples bien sûr, car pour l'heure, les grandes banques françaises se contentent d'aider ces jeunes pousses, multipliant les annonces autour de création d'incubateurs, de lancement de concours ou de prise de participation minoritaire dans les fintech, sans encore atteindre les outils industriels d'investissement de BBVA par exemple. Mais revenons à la France. Entre le FinTech Forum du mois de janvier à Bercy, qui réunissait le monde de la finance traditionnelle et quelques 50 FinTech savamment sélectionnés, et la salle comble du pavillon Gabriel nettement plus mélangé mardi après-midi, il est clair que Paris commence à se sentir pousser des ailes pour enfin rivaliser avec Londres. D'ailleurs, si la France ne compte pas encore de licorne dans l'univers FinTech, quelques prétendants sont sur les rangs. On peut citer FinexCap, SlimPay, Compte Nickel, Uniland ou encore Prêt d'Union. Ils ont tous fait dans les derniers mois des levées de fonds non négligeables et trouvent leur marché. Alors, que faut-il retenir de ce premier FinTech Révolution ? Tout d'abord, que les pouvoirs publics en France et en Europe sont à la fois vigilants mais aussi bienveillants vis-à-vis de l'émergence de cette tendance de fonds. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, et Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, ont tous les deux fait l'apologie du dynamisme du secteur financier français. Ils ont mis l'accent sur les efforts et le soutien des pouvoirs publics, l'évolution de la réglementation française et européenne, la création d'une unité dédiée aux startups de la fintech au sein de la Banque de France pour étudier rapidement leurs demandes, tout ça pour favoriser le développement et la croissance des fintechs, tout en rappelant qu'une dose équilibrée de régulation est nécessaire pour protéger entrepreneurs comme clients des fintechs. On en retiendra aussi que la blockchain est dans toutes les bouches, depuis les experts comme Laurie Keogh chez Deloitte ou le développeur Peter Todd, mais aussi l'ancien ministre et philosophe Luc Ferry. Tous confirment que la blockchain est incontournable dans le monde de la finance, mais que nous nous orientons sans doute vers un modèle hybride où la blockchain servira de recours pour les litiges ou pour enregistrer des transactions entre les institutions financières ou de grands acteurs industriels, mais certainement pas pour le café du coin. Par contre, il y a de bonnes raisons de croire que dans le monde de demain, nous ne paierons plus notre petit noir avec du cash. C'est ce qu'a expliqué le gouverneur de la Banque centrale du Danemark, qui avance avec le gouvernement de son pays pour créer la première société cashless, c'est-à-dire favoriser la disparition de l'argent liquide, permettant ainsi plus de sécurité, de facilité pour les clients comme pour les commerçants.
Guillaume de Grosse, merci. On retrouve tout de suite le crash test avec Antoine, comme chaque samedi.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Antoine Cyr, le point de départ de ce crash test est la femme à barbe.
Et oui, la femme à barbe, qui est un concept beaucoup plus geek que vous ne l'imaginez certainement.
C'est vrai.
Alors c'est vrai que des femmes à barbe, il y en a beaucoup dans l'histoire. Il y en a dans l'histoire de l'art. Il y a notamment un célèbre tableau de José de Ribera qui s'appelle La femme à barbe, précisément, qui date de 1631, dans lequel on voit une certaine Madeleine Ventura allaitant son enfant aux côtés de son mari. Et puis il y a aussi des femmes à barbe aussi cinéma, par exemple, il y a un célèbre film qui s'appelle Freaks, la monstrueuse parade de Todd Browning en 1932, qui est un film qui a été tourné dans un cirque où il n'y avait que des monstres de cirque, en tout cas des monstres ou en tout cas des curiosités, des personnes qui étaient des curiosités de cirque, et donc à l'intérieur de ce film, on voit une femme à barbe. On la trouve dans la chanson aussi, il y a une chanson de Brigitte Fontaine qui s'appelle La nuit est une femme à barbe. Bon, c'est plutôt poétique. Et puis, donc, effectivement, la femme à barbe a fait irruption depuis déjà un certain temps dans le monde des geeks. Alors, d'abord, il faut rappeler que dernièrement, des femmes à barbe, mais là, ce sont des barbes symboliques, sont arrivées au sommet des startups. On est début avril 2016, et donc les femmes à barbe s'avancent sur scène, donc avec cette pilosité accrochée à leur menton, et se placent derrière les conférences avec des pancartes à la main, tout simplement parce que cette première table ronde du sommet des startups présentait une caractéristique qui était que l'essentiel des orateurs étaient des hommes. Et donc c'était la 200e en fait manifestation d'un collectif qui s'appelle La Barbe et qui est un collectif de femmes à barbe, évidemment de fausses barbes, qui font irruption dans les assemblées où il n'y a que des hommes qui parlent pour dire écoutez, maintenant vous êtes sympa.
Voilà.
Mais on est dans un métier, c'est le cas des startups, où il y a des femmes qui y agissent, et donc il n'est pas normal de n'inviter que des hommes à venir prendre la parole. C'est tout à fait intéressant comme collectif.
Évidemment.
Voilà, évidemment. Mais donc des femmes à barbe, on en trouve aussi sur la toile qui sont de vraies femmes à barbe. Et il y en a une qui a fait une sorte de roadshow dans les médias, qui a eu énormément d'impact sur la toile, qui s'appelle qui s'appelle Arnam Kaur. Donc Arnam Kaur, c'est une femme qui a, elle, une vraie barbe et qui se bat contre les préjugés et les dictats de la beauté en affichant fièrement sa barbe et en affirmant qu'une femme à barbe peut être belle. Alors, d'abord, pourquoi a-t-elle une barbe ? Eh bien, elle souffre du syndrome de Stein-Leventhal, qui est une maladie qui donne aux femmes une pilosité légèrement anormale. Sa barbe a commencé à pousser quand elle avait l'âge de 11 ans.
Ah oui.
Elle a également du poil sur le torse.
Tiens.
Et oui. Ah oui. Et elle a essayé de lutter contre ça. Elle a failli se suicider.
Ça va être un peu surprenant au début.
Effectivement.
En tout cas.
Et alors qu'elle avait 16 ans, à un moment, elle a eu une espèce de vision philosophique que personne ne lui a conseillé.
D'accord.
D'ailleurs, elle a trouvé ça toute seule. Elle a dit déplace l'énergie que tu pourrais dépenser en t'ôtant la vie, en l'utilisant pour changer ta vie et en faisant quelque chose de mieux. Et donc, elle a décidé d'être elle-même. Alors, l'histoire de Arnam Kaur, on la trouve sur le site Terra Femina. Hein, donc là aussi, effectivement, présence féminine forte sur la toile à travers ce site. Et elle dit, j'ai décidé de garder ma barbe et tenter de me rebeller contre les préjugés. Je me suis dit, sois une jeune femme à barbe, belle et heureuse. J'ai compris que mon corps m'appartenait, qu'il était à moi et que je ferais tout aussi bien d'aimer inconditionnellement ce corps. Donc c'est un message d'acceptation de soi, finalement, qui est en train de passer beaucoup sur la toile, puisque Arnam Kaur, qui est anglaise, a un compte Instagram qui est extrêmement suivi, dans lequel elle affiche toutes ses photos.
Toutes ses photos, d'accord.
Dans lesquelles on peut... alors, il y a à la fois des séances photos qui sont très étonnantes, hein, et qui sont vraiment faites pour la rendre et pour mettre en avant son caractère séduisant. On voit effectivement, d'ailleurs, que c'est une jeune fille qui a des traits plutôt fins, etc.
Plutôt fins, d'accord.
Enfin, voilà.
Oui, c'est une femme avec une pilosité, on va dire, un petit peu plus développée.
Exactement.
Quoi.
Alors, évidemment, la présence de Arnam Kaur suscite pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, généralement des réactions très favorables. J'ai vu par exemple une certaine Carly Harley qui avait vu des photos de Arnam Kaur et qui disait au-delà du message de tolérance, Arnam Kaur est quand même extrêmement stylé. Voilà. Donc c'est tout de même très très intéressant et ce qui est très intéressant, c'est que les réseaux sociaux sont extrêmement puissants dans cette dynamique d'acceptation de la personnalité d'Arnam Kaur. Elle les utilise, elle les a mis en avant pour faire progresser des logiques évidemment intellectuelles qui sont différentes de celles auxquelles on est habitué. Je vous parlais tout
surtout
à l'heure
Instagram qui est un qui est un média on va dire très enfin qui est photo quoi.
Je vous parlais tout à l'heure du film de Todd Browning Freaks. Bon bah c'est un film sur les monstres de cirque. La femme à barbe n'est pas envisagée autrement que comme étant monstrueuse. Autrefois
une attraction.
Il y avait autrefois une femme à barbe qui dans les cirques français au 19e siècle qui circulait et qui s'était fait connaître comme la femme la plus du monde.
Oh mon Dieu.
Donc c'est quelque chose de donc là c'était quelqu'un qui s'était accepté mais qui avait dû se résoudre à s'accepter de manière extrêmement négative. Arnam Kaur propose quelque chose d'évidemment très différent. Alors je ne serais pas évidemment complet sur la femme à barbe si je ne mentionnais pas le cas de Conchita Wurst, hein, puisque Conchita Wurst là c'est une personne qui se travestit,
hein, bien sûr, qu'est un homme, au départ.
Qui est un homme, voilà, tout à fait. Qui est un homme déguisé, barbu, déguisé en femme.
Oui, qui a remporté l'Eurovision.
Et qui a remporté l'Eurovision. Et donc, Conchita Wurst a des comptes Twitter. Il y a un compte certifié international. Il y a un compte français. Hein, et donc, bah là, récemment, il y a eu un concert de Conchita. Il y a un hashtag qui est Conchita Live pour tous les concerts de Conchita Wurst, si vous souhaitez les suivre. Et donc, il y a un hashtag Conchita Live avec récemment des concerts en Autriche qui ont eu beaucoup de succès et donc sur lesquels vous pouvez voir la participation de Conchita Wurst donc sur scène avec pas mal de photos qui montrent l'évident succès de ces concerts.
Voilà, Antoine. Bon, là, vous, pas un poil qui dépasse.
Ah,
hein,
moi, je suis
fraîchement rasé, Antoine.
Je suis totalement glabre.
Complètement. L'atelier numérique se termine avec ce crash test. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là samedi prochain, 16h, 18h. Portez-vous bien et à samedi.